le Seigneur est vraiment bon pour nous. Et nous allons en ce matin étudier la parole de Dieu, bien évidemment. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et considérer ce que la parole de Dieu a à nous dire. Et nous allons voir à quel point nous avons besoin de Jésus dans notre vie, à quel point nous avons besoin de le connaître et aussi de le faire connaître. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu et de Jésus. Et mais avant d'avancer, d'aller plus loin, je vous invite à vous prosterner avec moi pour que le Seigneur puisse nous conduire dans cette étude. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous donnes de pouvoir nous prosterner devant ta face afin d'invoquer ton nom. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit en ce matin afin que nous puissions comprendre ta parole et que l'enseignement que tu désires nous donner, Seigneur, puisse trouver la place qui lui revient dans nos cœurs et de manière à ce que nous soyons à même de remplir la mission que tu as pour nous, d'être propre à ton service et de pouvoir te glorifier. Seigneur, que ton nom puisse être glorifié et exalté, sont là les grâces que nous te demandons au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Alors, je rappelle que nous sommes en train d'étudier le sujet du royaume de Dieu. Et nous sommes dans la section qui s'intitule L'entrée dans le royaume de Dieu. D'accord? Et nous avons, durant les études précédentes, nous avons considéré la nouvelle naissance. Nous avons déjà considéré la nouvelle naissance. Nous avons considéré que l'obéissance était la condition de l'alliance. Nous avons aussi considéré que l'obéissance était le devoir immuable. Et nous avons considéré la volonté du Père ainsi que les serviteurs du royaume. Dans toutes ces études-là, du moins toutes ces études-là avaient pour but de nous montrer comment rentrer dans le royaume de Dieu. D'accord? Et aujourd'hui, nous allons considérer une autre étude qui s'inscrit dans cette section, qui est l'entrée dans le royaume de Dieu. Et pour ce faire, je vous inviterai à ouvrir avec moi. Prenons nos Bibles et ouvrons et rendons-nous dans la deuxième épître de Pierre. La deuxième épître de Pierre. De Pierre, chapitre 1. Et je voudrais introduire cette étude en lisant ce verset. Je vais juste lire le verset et vous allez comprendre et nous allons avancer après. Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. L'apôtre dit, ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voici pourquoi nous allons considérer ce passage. Car ici, il nous est parlé que voilà comment l'entrée dans le royaume nous sera pleinement accordée. D'accord? Mais de quoi est-il parlé ici? De quoi est-il parlé? Quelle est cette ainsi, cette manière selon laquelle le royaume, l'entrée dans le royaume nous sera pleinement accordée? Pour cela, il nous faut lire, vous serez d'accord avec moi, il nous faut lire le contexte. Donc, je vous inviterai à lire du verset premier jusqu'au verset que nous avons lu. Et nous allons voir quelle est cette manière que si nous la suivons, à ce moment-là, l'entrée dans le royaume nous sera pleinement accordée, mes amis. Car, mes amis, si vous avez peur que votre entrée dans le royaume soit juste, ici, il est dit que si on suit, si l'on agit, si on agit ainsi, de cette manière-là, on ne rentre pas dans le royaume. On a plus que de chances de rentrer dans le royaume. Il y a une différence, mes amis. Là, il y a une amplitude, il y a une ampleur, une abondance qui est dans le texte. Donc, si nous avons peur, si nous avons des doutes, mes amis, cette étude-là, nous ne devons pas la manquer et nous devons la saisir, chercher à la comprendre. Alors, lisons. Verset 1er. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont eu en partage une foi du même prix que la nôtre, dans la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, et fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise, ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience. Et à la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle. Sa vue est courte et il a oublié la purification de ses péchés passés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Et je lirai le verset 12. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ceux qui reçoivent nos newsletters savent très bien comment je commence chaque courriel qui est envoyé. Avec le verset 2 de ce chapitre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Mes amis. Voilà comment je commence chacun des courriels que nous vous envoyons, mes amis. Quasiment chaque semaine. L'objet de cette étude, mes amis, sera donc de comprendre comment la connaissance de Dieu et de Jésus peut nous permettre d'avoir pleinement accès au royaume de notre Seigneur. Tel sera l'objet de notre étude. Et commençons de manière à savoir comment. Tâchons de comprendre ce passage, verset par verset. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Mes amis, la grâce et la paix sont des éléments que l'apôtre Paul, au début de chacune de ses épîtres, relie à Dieu, le Père, et à Jésus. OK? Il n'y a pas de grâce et de paix sans Dieu et Jésus. OK? Donc, la première chose à noter ici est qu'il s'agit de deux êtres personnels divins. Dieu le Père et Jésus-Christ, son Fils, unique engendré. Le Saint-Esprit n'est pas mentionné ici, mes amis. Car, pourquoi? Car il n'est pas un être. Il n'est pas un être personnel divin, tout comme l'est le Père et le Fils. C'est pour cela que l'apôtre Pierre ne le mentionne pas dans le texte. Il ne mentionne que Dieu et Jésus. Donc ici, le cadre est posé, mes amis. Le cadre est posé. L'apôtre Pierre définit quelle connaissance qu'il faut avoir. Quelle divinité qu'il nous faut connaître. La configuration est donnée, mes amis. Ainsi, tous ceux qui ont une compréhension trinitaire, trithéiste, de la divinité, ces personnes-là, malheureusement, ne seront pas à même de vivre les choses qui vont suivre dans les versets suivants, en fait. De vivre les choses que l'apôtre va mentionner dans les versets suivants. Parce que ces choses-là sont liées à la connaissance que l'on a de Dieu et de Jésus, mes amis. Une connaissance trinitaire ou trithéiste ou toute autre connaissance que celle de Dieu et de Jésus ne nous permettra pas de développer ce qui va être ce dont l'apôtre Pierre parle dans les versets suivants. On ne peut pas vivre ces choses-là, mes amis, quand on est trinitaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est moi qui. On vient de le lire. Et on va le comprendre au fur et à mesure. De plus, le mot connaissance ici est traduit du grec epignosis, qui signifie connaissance précise et correcte. Autrement dit, une pleine connaissance. Donc, pas de place pour une connaissance vague, mais surtout pour une connaissance imprécise et incorrecte. Il nous faut connaître Dieu et Jésus de manière complète, entière. Et à ce moment-là, on peut avancer. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, et il revient à la charge, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. C'est ce que dit ma version, par sa gloire et par sa vertu. Mais dans le texte original, il n'est pas question de par sa gloire et par sa vertu. Dans le grec, il est question qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Mais si je reformule le texte, si je le reformule, c'est-à-dire que je vais paraphraser le verset, car dans la version Ostervald, il a une certaine tournure. Il y a une tournure. Et moi, je vais vous paraphraser ce verset-là. Et j'avais aussi intégré, j'avais rectifié les erreurs de traduction. Et écoutez bien. Le verset dit, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu, sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Donc, mes amis, encore une fois, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu, c'est par la connaissance que sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie, tout ce qui touche à la vie et à la piété. Voilà ce que le verset veut dire. Donc, verset 2, il établit le fait que c'est la connaissance, que c'est par là que ça commence. Et après, sa divine puissance peut intervenir pour nous donner. OK? Vous avez suivi? Très bien. Maintenant, question. De qui parle-t-on ici? Qui est celui qui nous a appelés? Car la Bible dit celui. La Bible ne dit pas ce. Elle dit celui. C'est un singulier là. Qui est celui-là qui nous a appelés? Est-ce Jésus? Est-ce Dieu? Tournons les pages de nos Bibles dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. 1 Pierre, c'est la page d'avant pour ceux qui ont une Osterwald. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Et l'apôtre Pierre précise. Il dit, Or, que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus, après que vous aurez un peu souffert, vous rende parfait, ferme, fort et inébranlable. Mes amis, c'est Dieu. C'est Dieu qui, par Jésus-Christ, nous a appelés à la gloire et à la vertu. Donc ici, il nous est parlé de connaître Dieu par Jésus-Christ ou connaître Dieu et Jésus-Christ. Donc, puisque Dieu passe par Jésus pour faire cela, mes amis, il s'agit bien de connaître Dieu et Jésus-Christ, ou plutôt de connaître Dieu et Jésus-Christ. Ainsi, en apprenant à connaître Dieu par Jésus, mes amis, Dieu nous donne par Jésus sa divine puissance pour vivre dans la sainteté. Je reprends cela. Dieu nous appelle par Jésus à le connaître. Et une fois que nous acceptons cette connaissance, Dieu nous donne par Jésus sa divine puissance pour vivre dans la sainteté. Parce que rappelez-vous, Dieu est saint et il nous appelle à être saints. Encore une fois, tous ceux qui n'ont pas une connaissance correcte de la divinité, ils ne seront pas en mesure, techniquement parlant, mes amis, si je peux dire ça ainsi, techniquement parlant, ils ne seront pas en mesure, ils n'auront pas la possibilité d'arriver à la sainteté que Dieu demande. Parce que, mes amis, la Bible déclare qu'il faut connaître Dieu, il faut avoir la connaissance de Dieu, mes amis. Et cela passe. Et cela se fait en connaissant Jésus. Verset 4. Par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Lorsque Dieu nous a donné, ok, je reprends, nous apprenons à connaître Dieu, ok, et à ce moment-là, Dieu, par Jésus, nous donne la divine puissance, ok, et pour justement que nous puissions arriver à la sainteté, pour que nous puissions avoir tout ce qui concerne la vie et la sainteté. Et en nous donnant cela, mes amis, en nous donnant ce dont nous avons besoin pour vivre dans la sainteté, Dieu nous donne aussi l'assurance, mes amis. En faisant cela, Dieu nous donne l'assurance de participer à la nature divine. Et comment cela se vérifie-t-il? Cela se vérifie parce que la corruption de ce monde qui existe par la convoitise, n'est plus notre partage, mes amis. Notre partage, c'est la nature divine. Nous sommes participants de la nature divine et nous ne participons plus à la convoitise de ce monde. Voilà ce que le verset dit. Et bien évidemment, et oui, mes amis, participer à la nature divine, mais qu'est-ce que cela signifie de participer à la nature divine? Nous allons avoir la réponse dans les versets qui vont suivre. Considérons maintenant du verset 5 jusqu'au verset 7. Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la science, et à la science la tempérance, Et à la tempérance, la patience. Et à la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Mes amis, de quoi nous est-il parlé ici? De quoi nous est-il parlé ici? On nous parle de foi, on nous parle de vertu, on nous parle de science, de tempérance, de patience, de piété, d'amour, de charité. Qu'est-ce que sont ces choses, mes amis? Il s'agit ici de caractéristiques. OK? Et mes amis, lorsque quelqu'un dispose de toutes ces caractéristiques, de quoi parle-t-on en fait chez cette personne-là? Dans notre langage à nous aujourd'hui, on parle du caractère, mes amis. On parle du caractère. Il est parlé ici du caractère, mes amis. Le verset 5 à 7, on nous parle du caractère. Pierre nous donne ici la recette pour obtenir un caractère chrétien. Autrement, mes amis, autrement dit, participer à la nature divine signifie avoir ce caractère, le caractère chrétien. Vous suivez ça, mes amis? Je vais reprendre. Dieu se fait connaître. Il publie sa connaissance à travers Jésus-Christ. Nous rencontrons Jésus. Et Jésus nous permet de connaître Dieu. Et par cela, nous avons une connaissance du Père et du Fils, mes amis. OK? Avec cette connaissance-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu, par Jésus, à ceux qui ont cette connaissance-là, nous donne sa puissance divine, afin que nous puissions vivre dans la sainteté, mes amis. OK? Et à ce moment-là, l'assurance, la promesse nous est donnée, car Dieu nous donne sa puissance divine. En faisant cela, il y a une promesse, mes amis, de pouvoir être participant de sa nature, c'est-à-dire son caractère, mes amis, d'avoir le caractère divin. Et Jésus-Christ est celui, mes amis, qui avait ce caractère-là sans jamais le perdre une seule seconde, mes amis. Donc, c'est par Jésus-Christ que cela se passe. Si je dois faire une parenthèse ici pour revenir à ce que je disais, pour que nous puissions bien voir la manière dont ces choses-là s'emboîtent, mes amis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous avons une connaissance incorrecte de la divinité, le reste des versets, comme je l'ai déjà dit, ne pourra pas être notre partage. Mais arrivé ici, je puis dire autre chose. Je puis amplifier ce que j'ai dit tout à l'heure. Si nous avons une connaissance incorrecte de la divinité, mes amis, il ne nous sera pas possible d'avoir le caractère divin. Et cela s'explique, mes amis. Cela s'explique. Car si vous contemplez une idole, mes amis, vous allez avoir le caractère de cette idole, mes amis. On est transformé à l'image de ce que l'on contemple. Il est normal que si j'ai une connaissance correcte du Père et du Fils, que normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour développer le caractère qui est en fonction. Mais si j'ai une connaissance d'un Dieu à trois faces, mes amis, je vais développer le caractère qui est en conséquence. Enfin, en tout cas, j'ai toutes les chances de développer le caractère qui est en conséquence. Ainsi, Dieu fait sa part. Dieu a fait sa part. Dieu se fait connaître. Il met sa connaissance à disposition. Et Il nous donne la puissance, sa puissance divine, de manière à ce que nous puissions vivre dans la sainteté. OK? Dieu fait sa part. Mais ici, à partir du verset 5, mes amis, à partir du verset 5, Dieu nous montre et il nous dit que nous devons faire notre part. Et il nous montre comment et quelle est notre part. Dieu nous demande d'ajouter ces choses les unes sur les autres. D'additionner la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Dieu a fait sa part. Il s'est fait connaître, il s'est révélé et il nous donne la puissance. À travers cette connaissance, cette révélation, il donne sa puissance divine pour que nous puissions participer à la nature divine, c'est-à-dire avoir le caractère divin. Dieu a fait sa part. Maintenant, il nous demande de faire notre part avec ce qu'il nous a donné. Avec ce qu'il nous a donné, il nous demande de faire notre part. Et le verset dit, ainsi y apportant tout votre zèle. J'aime bien la version King James qui dit, and beside this, giving all diligence. C'est-à-dire, et donc, à côté de cela, ou après cela, soyez diligents. Faites tout. Donc, il nous est demandé de faire quelque chose. Mais avec zèle, avec diligence, mes amis. Pas de manière molle. Et vous allez comprendre pourquoi. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ces choses doivent être en nous, mes amis? La foi, la vertu, tout ce qui a été mentionné. Comment, de quelle manière, ces choses doivent être en nous, mes amis? En abondance, dit l'apôtre. En abondance. Et pourquoi en abondance, mes amis? Car elles feront, dit le texte. Pas, ce n'est pas nous qui ferons, mais ces choses en nous qui sont en abondance, nous les aurons collectées et elles feront en nous que nous serons ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la connaissance du Fils de Dieu, mes amis. Vous savez, comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, comprendre que la Trinité, ce n'est pas, ça n'a aucun rapport avec l'Évangile, et c'est même anti-Évangile, et que cela n'a rien de biblique, bien évidemment. Savoir cela, mes amis, c'est bien. C'est bien. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début, mes amis. Or, bien souvent, les gens disent, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils continuent à se rendre dans des assemblées où la Trinité est adorée. Mais il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et de ce fait, en faisant cela, ils sont stériles et oisifs, mes amis. Qu'est-ce qu'il y a de productif? Qu'est-ce qu'il y a de fertile à ce que lorsque vous avez la connaissance, la véritable connaissance, mes amis, vous continuez à adorer, je précise, vous continuez à aller adorer dans un lieu où une idole est officiellement adorée. Qu'est-ce qu'il y a de fécond et de productif là-dedans? Rien, mes amis, rien. Si j'agis ainsi, je suis stérile dans la connaissance. Est-ce que nous avons ajouté la science, comme dit le verset? C'est-à-dire, quand on prend le grec, cela signifie aussi discernement. Est-ce que nous avons ajouté le discernement, mes amis, dont nous parle le verset 5, la science, ce discernement-là, cette clairvoyance, cette compréhension de l'évangile? Est-ce que nous l'avons ajouté pour discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas bien? Avons-nous ajouté l'amour fraternel? Mais pour ce faire, il nous faut déjà avoir une bonne compréhension de ce qu'est un frère et une sœur en Christ. Et avons-nous ajouté la charité? Et avons-nous compris que dans 1 Corinthiens 13, verset 6, la charité ne se réjouit point de l'injustice, mais de la vérité? Est-ce que ces choses-là, nous les avons acquises? Est-ce que nous faisons tout notre possible pour les acquérir? Mes amis, on ne peut pas se permettre d'être incertain sur ces choses. Nous devons être au clair là-dessus. Nous devons avoir la foi, mes amis. Et nous avons déjà vu ce qu'est la foi. La foi qui est la doctrine. La foi aussi qui est le moyen d'accéder à la justice, mes amis. Nous devons être au clair là-dessus. Sur la vertu, sur les choses qui sont bonnes, mes amis. Qui sont vertueuses, qui sont correctes. Le discernement, avoir cette science, la tempérance, mes amis, c'est savoir être équilibré dans tous les aspects de notre vie. La patience, comme Jésus l'avait. La piété, mes amis. Ce respect qu'on a pour Dieu. L'amour fraternel et la charité. La charité qui se réjouit dans la vérité, mes amis. Et pas une charité comme veut nous l'apporter certains chrétiens. Je t'aime même si tu crois en ce que tu crois. On est frères, soyons unis. L'amour ne se réjouit pas dans l'erreur, mes amis. Or, bien souvent, on parle d'amour. On sait que Jésus est le Fils de Dieu, mais on continue à se rendre dans des assemblées où l'idolâtrie est pratiquée. Et on dit, ah oui, mais il faut s'aimer, il y a de l'amour. L'amour ne se réjouit pas de l'erreur, mes amis. Si on a une carence dans ces choses, on est en danger, mes amis. Verset 9, il est dit, mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle. Sa vue est courte et il a oublié la purification de ses péchés passés. Voilà ce qui nous attend, mes amis. Si la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité n'abondent pas en nous. Voilà ce qui nous attend, mes amis. C'est, en clair, c'est un retour à la case départ, mes amis. C'est un retour à la case du diable, à la cage du diable. C'est retour à l'état dans lequel on était sans Christ, mes amis. C'est le chemin que l'on trace, mes amis, si l'on n'est pas zélé dans le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, mes amis. C'est le texte. Et Nous allons décortiquer ce texte-là. Écoutez bien. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce texte-là. Ils ne sont pas d'accord avec l'apôtre Pierre. Et ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas d'accord avec l'apôtre Pierre. Car ils n'aiment pas entendre dire aveugle. Ils n'aiment pas parce qu'ils se sentent concernés et ça les blesse. Ils préfèrent manque de discernement. Mais mes amis, c'est ce que le texte dit, mes amis. Le mot aveugle ici est traduit du grec. Du terme grec, touflos, ok? Et ce terme-là signifie littéralement aveugle ou mentalement aveugle. Waouh! Donc littéralement aveugle, mais aussi mentalement aveugle. Ça veut dire que intellectuellement là, quand vous réfléchissez, c'est opaque, mes amis, c'est opaque. Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas les choses. Et l'apôtre continue, mes amis, en disant que sa vue est courte. Qu'est-ce que cela signifie? Il ne parle pas au niveau littéral, là, bien que ça pourrait être le cas. Mais là, ce n'est pas le littéral qu'il mentionne, l'apôtre Pierre. Il veut signifier ici que les gens ne vont pas comprendre les choses spirituelles. Notamment quand ça commence à s'élever. Eux, ils auront une vision très courte, très, très basique. Standard. Ils ne pourront pas pénétrer les choses spirituelles. Mes amis, si nous sommes dans cette situation, cessons de blâmer celui qui nous dit que l'on est aveugle, mes amis. Et arrêtons de jouer sous les mots. Ah, ne dis pas que je suis aveugle. Pourquoi tu dis que je suis aveugle? C'est pas correct, dis que c'est un manque de discernement. L'apôtre Pierre te dit que tu es aveugle, mon ami, et que ta vue est courte. Et c'est Jésus-Christ qui parle à travers son apôtre. La Bible déclare, mes amis. Cessons de refuser ce reproche qui nous est fait. Et acceptons-le, mes amis. Et confessons-le, de manière à ce que Jésus-Christ puisse combler ce vide. Mais si nous ne faisons pas ça, mes amis, nous avons en nous, à ce moment-là, nous avons en nous les germes du Laodicéen. Car le Laodicéen dit quoi? Je ne suis pas aveugle. Et Jésus lui dit, tu es aveugle. Mes amis, si nous voyons que cela correspond à notre état, mes amis, reconnaissons ce que nous sommes. Si nous avons manqué dans ces choses que l'apôtre Paul parle, que l'apôtre Pierre parle, et qu'il nous faut additionner, si nous sommes oisifs, si nous avons été oisifs et si nous avons été stériles, mes amis, il est temps d'accepter le reproche. Car le verset 10 nous dit, c'est pourquoi, frères, il parle à des frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Voilà une citation qui vient anéantir la doctrine calviniste de l'élection, les élus. Pierre s'adresse ici à des frères, à ses frères, en la foi, à ses frères en la foi. Et il leur dit quoi? Si vous faites ces choses, vous ne broncherez jamais. Est-ce que vous avez entendu le mot clé dans la phrase là, mes amis? C'est le plus petit mot de la phrase. Si. Mais il est de loin le plus important de la phrase, car il exprime la condition. C'est à cette condition-là que la suite est pour toi. Ainsi, affirmer ma vocation et mon élection signifie faire en sorte que la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité abondent en moi. Si, mes amis, j'applique le verset 5, 6 et 7, à ce moment-là, je suis en train d'affirmer ma vocation et mon élection, mes amis. Et donc, je ne serai pas aveugle et je n'aurai pas la vue courte. Vous pensez qu'être aveugle, c'est pas un danger? Vous pensez encore que avoir la vue courte, c'est pas un problème? Écoutez ça. Comment il termine le verset 10? Il dit qu'on a dit la condition est si vous ne faites pas, si vous faites cela, alors vous ne broncherez pas. Mais si on n'a pas cela, si on n'a pas ce qui est marqué du verset 5 au verset 7, si on n'est pas zélé pour acquérir ces choses, mes amis, à ce moment-là, on ne remplit pas la condition. À ce moment-là, on devient aveugle. À ce moment-là, mes amis, qu'est-ce qui se passe? On a la vue courte. On oublie la purification de nos péchés passés. Et verset 10, en fait, on bronche. On bronche, mes amis. Que signifie broncher? Cela signifie tomber dans le péché, mes amis. Cela signifie également, parce que la King James Version traduit cela par fall, c'est-à-dire tomber. Okay? Et le grec aussi, le grec implique cela, tomber dans le péché, et aussi, je vous le dis de tête, être dans la misère, voilà, être dans la misère et aussi le mot ici c'est être dans la misère. Et il y avait aussi un autre, et voilà, et tomber dans l'erreur, mes amis. Voilà ce qui va se passer. On tombe, on bronche. Est-ce qu'on pense encore que être aveugle, est-ce qu'avoir la vue courte, c'est pas un problème? Si, c'est un problème, mes amis. Car on peut tomber dans le péché, mes amis. On peut commettre des erreurs. On peut être misérable dans la foi. Voilà ce que ça signifie, mes amis. Et verset 11. Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc à présent, nous comprenons comment nous entrons dans le royaume de Dieu, mes amis. Nous comprenons à présent comment nous pouvons entrer pleinement dans le royaume de Dieu. C'est parce que ces choses, les choses dont on parle du verset 5 au verset 7, c'est parce que ces choses auront été en abondance en nous, autrement dit, pleinement en nous, que l'entrée dans le royaume nous sera abondamment, nous sera pleinement accordée, mes amis. Dieu est le Dieu de l'abondance spirituelle. Je reprends cela. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mes amis, qui s'est révélé à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est le Dieu de l'abondance, mes amis, spirituelle. Et il n'aime pas que ses enfants soient carencés, mes amis, spirituellement parlant. Il veut voir ses enfants dans l'abondance spirituelle, car lui-même agira avec nous en abondance, mes amis. Les portes de la cité de Dieu nous seront pleinement, grandement ouvertes, mes amis. On ne va pas y rentrer comme des voleurs, mes amis. On va y rentrer comme des rois, mes amis. l'entrée dans le royaume céleste nous sera pleinement donnée. Mais également, dès à présent, mes amis, nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu, ce royaume de grâce, et avoir, et justement, parce que nous ne sommes pas aveugles, nous n'avons pas la vue courte. Et le verset 11 et le verset 12 maintenant, c'est pourquoi, dit l'apôtre Pierre, je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoi que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je vais à présent tâcher d'expliquer quelque chose. L'apôtre Pierre ici dit que il ne négligera pas de rappeler ces choses sans cesse. Mes amis, cette prédication-là, Dieu me donne le droit ici de vous la répéter sans cesse, mes amis. Quoi que vous les sachiez, dit-il, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Quelle était la vérité présente à l'époque où l'apôtre Pierre parlait? Je pose une autre question pour vous aider à comprendre. De quelle connaissance la nation juive avait-elle besoin à son époque, mes amis? La connaissance de Dieu et de Jésus, mes amis. Que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Voilà quelle était la vérité présente à l'époque de Pierre, mes amis. Jésus-Christ, Jésus est le Christ. Autrement dit, Jésus est le Fils de Dieu, mes amis. Voilà quelle était la vérité présente. Et les gens à qui il écrit cela étaient. Ils savaient cela, ils connaissaient cette vérité-là, et ils y étaient affermis. Vous comprenez? Et c'est à ces personnes-là qu'il dit, je ne négligerai pas de vous répéter ces choses. Encore une fois, mes amis, j'avais à nouveau enfoncé le clou. Car le texte insiste. Le texte parle de la connaissance une fois, deux fois, trois fois. Donc, je dois intervenir trois fois à chaque intervention du texte. Parce que si quelque chose se trouve dans un texte une fois, mes amis, c'est que c'est important. Si dans un chapitre, vous voyez quelque chose une fois, c'est important. Si vous voyez que la chose est répétée deux fois, mes amis, c'est très important. Mais si vous voyez que le concept, mes amis, est ramené trois fois, la Bible dit que, sous la déclaration de deux ou trois témoins, toute affaire sera actée, mes amis. C'est que c'est super important, mes amis. Donc, je reviens là-dessus. Cette connaissance, mes amis. L'apôtre lui-même le dit que c'est les gens qui ont une telle connaissance qu'ils répètent ces choses. Il ne parlait pas à des gens qui avaient une connaissance autre que celle de Dieu et de Jésus. Mais c'est pour ces personnes-là, mes amis. Pour ceux qui avaient cette foi-là. Pour ceux qui ont suivi la parole de Jésus dans Jean chapitre 14. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est pour les personnes qui avaient cette foi-là, mes amis, cette croyance-là, que l'apôtre Pierre écrivit cela, mes amis. C'est très important, mes amis, de savoir cela. Je le répète, je pourrais frustrer peut-être certains. Et certains, parce que certains se disent, mais oui, mais t'insistes. Vous insistez là, toi, tu prêches là sur la divinité, comme s'il n'y a que ça dans la Bible. Mais mes amis, qu'est-ce que l'apôtre Pierre faisait là? À qui s'adressait-il? Et quelle était la condition pour pouvoir avoir un caractère chrétien, mes amis? C'était la connaissance, la connaissance, mes amis, de Dieu et de Jésus. Or, l'apôtre Pierre dit quoi? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Comment invoqueront-ils le Seigneur s'ils n'en ont pas entendu parler? Et comment vont-ils en entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Hein? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mes amis, je vais continuer à prêcher ce message. Parce que c'est de cette connaissance-là. C'est en fonction de cette connaissance-là, mes amis, que vous et moi serons à même de développer le caractère chrétien. N'écoutez pas les gens, mes amis, qui vous disent « Ah oui, mais tu parles de ça et autre chose, etc. » Mes amis, c'est le fondement, mes amis. C'est le fondement. Jésus-Christ a fondé son Église sur quoi, mes amis? L'Église de Jésus est fondée sur quoi? C'est Jésus-Christ lui-même le fondement de l'Église. Mais qu'est-ce que Pierre a dit pour que Jésus-Christ puisse lui dire ça? Tu es le Fils de Dieu, mes amis. Et nous apprenons à connaître Dieu par son Fils, mes amis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux, mes amis, y apporter tout mon zèle pour avoir ce caractère-là. Et je sais que je peux le faire, mes amis. Pourquoi? Parce que je connais Dieu le Père ainsi que Jésus. J'ai déjà passé la première étape, mes amis. Et après, il me faut avoir ce zèle-là pour continuer. OK? Car j'ai déjà la promesse, l'assurance que Dieu va me donner sa puissance. Et ainsi, je peux. Dans le Seigneur, je fais des efforts. Dans le Seigneur, j'agis. Je fais ma part. Il a fait sa part. Je fais la mienne. Et j'additionne ces choses. Et j'ai le caractère, mes amis, qui va avec. Et l'entrée m'est pleinement assurée dans le royaume, mes amis. Mais encore une fois, tout cela, mon salut aura été rendu possible parce que j'aurais connu, j'aurais eu la bonne connaissance au départ. Et je voudrais partager avec vous un texte de l'inspiration qui se trouve dans Conquérant Pacifique au chapitre 52. Et où il est dit, dans sa seconde épître adressée à ceux qui partageaient une foi du même prix que la sienne, Pierre révèle le dessein de Dieu concernant le développement du caractère chrétien. Et pour ceux qui veulent suivre, je suis à la page 473, paragraphe 1. Il écrit, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science la tempérance, à la tempérance la patience à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et là, elle a cité le texte du verset 1 jusqu'au verset 7. Et là, c'est le commentaire pour se poursuit. Ces paroles sont riches d'enseignements et résonnent comme un cri de victoire. L'apôtre explique aux croyants que les progrès spirituels peuvent être comparés à une échelle dont chaque degré représente une marche en avant dans la connaissance de Dieu. Waouh! En fait, on progresse dans cette connaissance-là, mes amis. Cette marche ne doit pas comporter d'arrêt. Important. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité constituent les degrés de cette échelle. Wow. Nous sommes sauvés en gravissant échelon par échelon et en nous élevant pas à pas au niveau tracé par le Christ. C'est ainsi qu'il est fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Dieu appelle ses enfants à la gloire et à la vertu. Ses grâces se manifestent dans la vie de tous ceux qui sont vraiment en communion avec lui. Devenus participants du don céleste, ils tendent à la perfection puisqu'ils sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Dieu se fait une gloire d'accorder sa force à ses enfants car il désire les voir atteindre les plus hauts sommets de la vie spirituelle. Lorsqu'ils saisissent par la foi la puissance du Christ, lorsqu'ils sont convaincus que ses promesses sont infaillibles et qu'ils s'en réclament, lorsqu'ils recherchent avec insistance le secours du Saint-Esprit, alors ils sont rendus parfaits en lui. Après avoir accepté l'Évangile, le chrétien doit avoir le souci immédiat d'acquérir la vertu. C'est ainsi qu'il purifiera son cœur et se préparera à recevoir la connaissance divine. Celle-ci est à la base même de toute éducation et de tout véritable service. La connaissance de Dieu est à la base. C'est la base, mes amis. Seule sauvegarde contre la tentation, elle, donc la connaissance divine, peut rendre le caractère semblable à celui de Dieu. Par cette connaissance du Père et de son Fils, Jésus-Christ, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, mes amis. Aucun don ne peut être refusé à celui qui refuse sincèrement d'obtenir la justice de Dieu. À celui qui désire sincèrement obtenir la justice de Dieu. La vie éternelle, a déclaré le Christ, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et le prophète Jérémie dit de son côté, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Elle continue. L'esprit humain a de la peine, à comprendre la largeur, la profondeur, la hauteur des richesses spirituelles de celui qui acquiert cette connaissance. Nul ne doit échouer dans son désir d'atteindre, dans sa propre sphère, la beauté de la vie du Christ. Par le sacrifice du Sauveur, tout ce qui contribue à la vie et à la piété est mis à la disposition de l'enfant de Dieu. Dans son humanité, Jésus nous a prouvé que, grâce à une coopération réelle avec Dieu, l'homme peut arriver à la perfection du caractère. Nous avons donc l'assurance que nous aussi, nous pouvons obtenir une victoire totale. C'est cela la perfection, mes amis. C'est, on parle de la perfection du caractère, mes amis. Et cela est possible. C'est ce qu'on a vu, et c'est ce qui est confirmé par le témoignage, mes amis. L'admirable possibilité de devenir comme le Christ, obéissant à tous les commandements, est offerte à chaque croyant. Par lui-même, l'homme est absolument incapable de parvenir à cet état. La sainteté à laquelle il doit arriver pour obtenir le salut, La sainteté à laquelle il doit arriver pour obtenir le salut, comme le déclare la parole de Dieu, est le résultat de l'œuvre de la grâce divine, dans la mesure où il se soumet à la discipline et aux influences contraignantes de l'esprit de vérité. L'obéissance ne peut être rendue parfaite que par la justice du Christ. Le rôle du chrétien est de préserver est, je reprends, le rôle du chrétien est de persévérer pour surmonter tous ses penchants. Il doit prier sans cesse le Seigneur de guérir son âme contaminée par le péché. Il ne possède ni la sagesse, ni la force qui lui permettrait de triompher. Ses vertus appartiennent à Dieu qui les accorde à tous ceux qui, le cœur contrit et humilié, implore son secours. Donc, c'est véritablement une dépendance qu'on doit avoir. Dieu a fait sa part. Nous, on doit faire la nôtre. Mais en fait, c'est conjugué, mes amis. Ce n'est pas Dieu fait sa part, je fais la mienne et puis après, Dieu ne profite plus sa part. C'est conjugué. Il y a une conjugation, une conjugaison permanente. L'œuvre de transformation qui se fait chez le pécheur à la recherche de la sainteté est permanente. Jour après jour, le Seigneur travaille à la sanctification du chrétien. Mais celui-ci doit collaborer avec lui, s'efforcer de cultiver avec persévérance de bonnes habitudes. Ah! Et s'attacher à ajouter grâce sur grâce. Ah! Tandis qu'il opère ainsi sous le plan de l'addition. Ok, donc qui? Le pécheur. Donc moi, ok. Dieu, lui, se livre à un travail de multiplication. Et si je me permets de faire une parenthèse, la division, ça c'est Satan qui l'a mis. Mais moi j'additionne, Dieu y multiplie. Notre Sauveur est toujours prêt à entendre les prières et à y répondre, si elles sont formulées par un cœur contrit. Il fait abonder sa grâce et sa paix parmi les fidèles. C'est joyeusement qu'il leur accorde les bénédictions qui leur sont nécessaires pour lutter contre le mal qui les assaille. Cependant, parmi ceux qui s'efforcent de gravir les degrés de la perfection chrétienne, certains commencent à placer leur confiance dans le pouvoir de l'homme. Ainsi, ils perdent bientôt de vue Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Et ils échouent dans leur entreprise, frustrés de tout ce qu'ils avaient gagné. Quelle est triste la condition de ceux qui, lassés par les difficultés de la route, permettent à l'ennemi des âmes de leur ravir les grâces spirituelles qui s'étaient développées en eux. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, déclare l'apôtre. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Pierre avait une longue expérience des choses de Dieu. Sa foi dans la puissance salvatrice du Sauveur s'était affermie avec les années jusqu'à ce qu'elle ait prouvé qu'il n'y avait pas de possibilité de chuter pour celui qui, avançant par la foi, gravit degré par degré, toujours plus haut et plus résolument, l'échelle qui accède aux portes même du ciel. Et effectivement, il est important de noter que c'est l'apôtre Pierre qui écrit cela, mes amis. C'est lui-même qui avait renié Jésus. Et que Jésus, après, a réintégré en tant que pasteur du troupeau. Paix, mes brebis. Paix, mes agneaux. Paix, mes brebis. À trois reprises, Jésus l'a réintégré. Après que lui-même l'avait renié trois fois. Ça dit quelque chose. Et après ça, il a repris le service. Jésus l'a requalifié. Mais après ça, l'apôtre Pierre est retombé. Car il a usé de duplicité. Avec les Juifs, il était comme un Juif. Et puis quand il était avec les païens et que les Juifs arrivaient, il faisait avec les païens, mais après, hop, il se décollait. C'était pas bien. Et il a été repris pour ça. Et cet homme-là, mes amis, qui a eu des difficultés-là, c'est lui qui donne cet enseignement-là. Et s'il le donne, mes amis, c'est que ça a marché, mes amis. C'est qu'il a pu avoir ce caractère chrétien-là. Au travers de sa longue expérience, il a pu voir que oui. Pendant de longues années, l'apôtre avait montré aux chrétiens la nécessité d'une croissance permanente dans la grâce divine et la connaissance de la vérité. Il savait qu'il serait bientôt appelé à subir le martyre pour sa foi. C'est pourquoi il attirait une fois encore l'attention des chrétiens sur les merveilleux privilèges qui leur étaient accordés. Avec une foi assurée, le vieux disciple exhortait ses frères en ces termes. « Appliquez-vous, disait-il, à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Quelle précieuse assurance! Quelle glorieuse perspective pour le chrétien qui avance par la foi vers les sommets de la perfection! Je vais m'arrêter là, je pourrais continuer, mais voilà mes amis. Voilà comment nous rentrerons dans le royaume de Dieu. En abondance, pleinement. Comme nous l'avons vu, il n'y a pas 150 000 chemins, mes amis. Il n'y a pas plusieurs connaissances qui emmènent dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, que vous soyez bouddhiste, catholique, baptiste, hindou, de toute façon, toutes ces religions-là sont des portes qui emmènent au ciel. Il y a des gens qui pensent ça sincèrement, mes amis. C'est pas ce que la Bible me dit. Il y a une connaissance. C'est cette connaissance-là qui me donne accès à la puissance divine. Nous ne laissons pas séduire, mes amis. Et tâchons d'avoir du zèle dans ces choses. Tâchons d'affirmer notre élection, mes amis. Notre vocation. Car nous avons des promesses, mes amis. Jésus-Christ, quand on voit la vie que Jésus a eue, nous pouvons l'avoir. Le caractère que Jésus a eu, mes amis. Et le caractère de Dieu, c'est sa gloire, mes amis. Et le texte nous dit quoi? Que Dieu nous a appelés à la gloire et à la vertu. En clair, c'est ça en fait. Quand le texte disait que Dieu nous a appelés à la gloire et à la vertu, c'est ça en fait. La vertu, toutes ces vertus qui sont là. Et en fait, cela constitue la gloire. Et comme Dieu en fait, mes amis, nous aurons son caractère. Nous devons faire l'inverse de ce que Satan a fait. Satan, il a convoité la gloire, à savoir le pouvoir, l'autorité de Dieu. Mais en fait, il aurait dû convoiter son caractère. Et c'est ce que nous devons faire, mes amis. Nous devons mettre tout notre zèle pour avoir ce caractère-là, mes amis. Parce que c'est ça, là, la véritable gloire, mes amis. C'est d'avoir ce caractère. Que le Seigneur puisse nous permettre de saisir ces choses et que nous puissions être victorieux, avoir une vie de victoire, mes amis. Et partager cette connaissance-là, mes amis. Et si nous ne l'avons pas, mes amis, il est temps de l'avoir. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ces paroles. Merci pour ces enseignements que nous avons tirés de ta parole. Merci de nous montrer le chemin, car il n'y en a qu'un. Et merci de nous montrer la connaissance, Seigneur, qui nous sert de chemin, que nous devons suivre pour recevoir de toi, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Pour la vie éternelle et pour vivre dans la sainteté comme toi tu es saint. Seigneur, tu nous montres que tu fais ta part et tu vas continuer à faire ta part. Mais tu nous montres que nous avons une part à faire et que nous devons continuer à la faire. Père, je t'en prie que nous puissions, au nom de Jésus, combattre ce bon combat et tâcher de cumuler, de gravir cette échelle, comme nous l'avons vu dans l'inspiration, et de ses vertus, de manière à ce que nous puissions être productifs, féconds, dans cette connaissance, Seigneur, que nous puissions amener d'autres dans ce sentier, afin qu'ils puissent l'être aussi. Et ainsi, nous aurons cet accès au royaume, abondamment, pleinement, parce que nous aurons eu une abondance. Ces choses auront été abondantes en nous, ces vertus auront été en nous avec abondance. C'est pour cela que tu nous accorderas pleinement l'entrée dans ton royaume. Que nous puissions saisir ces choses et ne permettre à rien du tout de nous détourner de cela, car nous pouvons connaître la vérité. Mais comme l'apôtre Pierre l'a dit aux chrétiens de son époque, de son vivant, et qui connaissaient la vérité présente, il leur a dit que je ne me lasserai jamais de vous répéter ces choses. Seigneur, nous avons besoin de cela plus que jamais. Car nous pouvons chuter, nous pouvons tomber dans l'erreur, être dans la misère spirituelle si nous ne sommes pas au clair, nous ne sommes pas en conformité avec ces 7 enseignements. Alors Seigneur, que tu puisses nous bénir dans ce sens et que tout un chacun ici présent et ceux qui nous suivent par la téléconférence puissent être richement bénis par toi et que nous puissions tous ensemble combattre ce combat de la foi. Père, je te remercie pour, encore une fois, pour ton amour et pour Jésus que tu as envoyé pour nous. Merci, car sans Jésus, tout cela n'est pas possible. C'est véritablement Jésus que nous avons besoin de connaître. C'est pour cela que Jésus nous a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Car Jésus avait ton caractère au tendre Père. Et en contemplant le caractère de Christ, de ton Fils, nous voyons ton caractère. Merci Seigneur pour cela. Merci infiniment. Nos mots sont faibles pour exprimer notre reconnaissance. Et même l'éternité ne suffira pas à pouvoir sonder cet amour, sonder cette merveille qu'est le salut que tu as pourvu pour nous. Mais Seigneur, nous avons des rayons qui nous sont parvenus et nous nous réjouissons de cela. Alors que tu puisses augmenter notre joie, Seigneur, notre connaissance de ce salut, que nous puissions être les enfants que tu veux que nous soyons. Ce sont là les grâces que nous te demandons, au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen.